Axel et Rodriguez Van Gama, tout ça interprété et préparé par Alain Platel. Et Dispatch, c'est breton, c'est la première fois que je dis ça, donc c'est un peu compliqué, par Patricia Alio au Grand Sud à 20h.
Demain soir, on retrouvera également Dispatch de Patricia Alio, qui aura également lieu au Grand Sud à 20h.
Et vendredi, nous aurons le spectacle du coup Récit de maillage végétal et industrie par l'atelier Zaatar au Chaud Bouillon à Lille, du coup à 18h30.
Samedi 14 juin, pour bien commencer le week-end, on a Ad Libitum de Simon Le Borgne qui aura lieu au couvent des Dominicains à Lille à 16h. Et en soirée, vous retrouverez Roméo et Juliette de Marcos Moreau à l'Opéra de Lille à 18h.
Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir leur ticket pour samedi, il y a Roméo et Juliette, la représentation par Marcos Moreau, le dimanche à l'Opéra de Lille à 16h.
Et enfin, pour mardi 17 juin, on retrouvera Ces notes qui commencent au fond de ma gorge de Fabrice Melchiot à la fileuse Los à 19h et Weike Kuna de Tiziano Cruz à la Maison Folie d'Oisem à Lille à 20h30. C'était les agendas de la semaine.
Le menu de la semaine. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine pour notre chronique du Festival Latitude Contemporaine sur Radio Campus Fréquence 106.6 en vous souhaitant une bonne journée.
Bonne journée les festivaliers. Bonne
journée. Bye.
Tous les mercredis de juin à 16h dans l'émission Quoi de neuf sur Radio Campus Lille. Vous avez rendez-vous avec le festival Latitude Contemporaine avec pour cette édition 2025 sur le pont Ami, Lisa, Noah et Emeraude. Alors bonne écoute sur le 106,6 FM ou campuslille.com. écoutez Radio Campus Lille, 106,6 FM, campuslille.com et en DAB+, sur la métropole lilloise. L'émission Quoi de Neuf, c'est tous les mercredis entre 16h et 18h, avec ce mois de juin, comme tous les mois de juin, quatre séquences d'une heure consacrées au festival Latitude Contemporaine, dont nous sommes partenaires depuis sa création. Merci à toute l'équipe d'avoir présenté, animé et fait des reportages sur ce beau festival que je vous conseille. N'hésitez pas à sortir un peu. Alors l'équipe, c'était Ami, Elisa, Noah et Emeraude. On les retrouve la semaine prochaine, 16h-17h, sur Radio Campus Lille, mercredi. Alors aujourd'hui, moi je vais vous emmener dans le Pas-de-Calais avec deux sujets. Le premier étant une présentation d'une structure qui s'appelle Mine de Soleil et qui travaille sur la transition écologique. Et la deuxième partie de cette émission, enfin de cette séquence, sera consacrée au musée de Calais. Et mon ami Marc Maille viendra me rejoindre pour présenter une visite que nous avons réalisée ensemble des musées de Calais. Et donc, voilà, nous irons à la fois au musée d'art contemporain, enfin au musée des Beaux-Arts de Calais, hein, pour notamment parler de la nouvelle salle consacrée à Rodin. Voilà, on expliquera pourquoi tout à l'heure. Et puis aussi, on parlera du musée qui est extraordinaire, hein, la maison de la cité et de la mode et de la dentelle, pardon, la cité de la mode et de la dentelle à Calais. Et donc voilà, encore un lieu magnifique à visiter. Profitez-en, c'est gratuit. Alors on va donc découvrir maintenant une structure qui travaille à la transition écologique, et elle est née à Los Angeles près de Lens. Voilà, donc une coopération entre des citoyens et des acteurs publics et privés du territoire, avec bien sûr la région qui booste un peu tout ça dans le cadre de sa troisième révolution industrielle. On va écouter tout de suite le reportage que j'ai réalisé dans le cadre du Green Forum 2025 à Liévin. Donc alors, on va y aller, c'est parti, je compte jusque 3, 1, 2 et 3. Apporter une réponse concrète aux enjeux de transition énergétique, c'est l'objet de Mine de Soleil, une société née à Los Angeles, près de Lens, le fruit de plusieurs années de coopération entre des citoyens et les acteurs privés et publics du territoire. C'est au Green Business Forum 2025 à Liévin, près de Lens, que j'ai rencontré Marie Piotrowski, assistante de gestion administrative de la SEM Énergie Hauts-de-France, un outil de développement régional qui accompagne le déploiement du premier pilier de la troisième révolution industrielle, le passage aux énergies renouvelables en Hauts-de-France.
C'est ça, dans le Pas-de-Calais, donc en fait la ville de Los Angeles, qui est très ancrée dans la transition énergétique locale, veut travailler avec ses citoyens, veut emmener ses citoyens dans cette transition, et en juillet 2018 lance ce qu'on appelle un appel à concession pour pouvoir solariser ses toitures.
À partir de là, l'idée de fédérer des structures, des sociétés et des citoyens, est née.
C'est ça, l'idée principale. Donc, il fallait réunir des fonds pour pouvoir faire ça. Alors, en fait, avec le lancement de l'avis de concession, il y a plusieurs entreprises qui ont postulé pour pouvoir mettre en place le projet. Et la ville de Los Angeles a choisi de travailler donc avec un groupement d'entreprises qui est Senelis Service, qui est installateur et développeur de projets photovoltaïques, et la SEM Énergie Hauts-de-France, qui va financer le projet. Mais ce qui était le plus important pour Los Angeles, c'était d'inclure les citoyens dans l'aventure de Mine de Soleil.
Donc la structure même de Mine de Soleil, c'est quoi ?
Alors la structure, en fait, vous avez plusieurs entreprises qui constituent l'actionnariat de Mine de Soleil. Donc la première, vous avez la ville de Los Angeles, les citoyens, qui sont 149 citoyens, l'entreprise de la SEM Énergie Hauts-de-France et Senelis.
C'est quand même une forme originale de structuration et aussi de développement.
Alors oui, en fait, pour la SEM Énergie a une façon de travailler. Quand elle aide financièrement un projet, on doit créer une société de projet, d'où la création de cette société qui va amener la ville de Los Angeles, les citoyens et deux autres acteurs extérieurs. C'est la SEM Énergie qui fait que c'est une société un peu spéciale, mais finalement tout le monde s'y retrouve parce qu'il y a une voix au chapitre de tout le monde. On a un comité citoyen complet, on a la ville de Los Angeles et on peut tous travailler en synergie autour de ce projet.
Le domaine général d'action de toutes ces entreprises, c'est quel sujet ?
Alors, la SEM Énergie est un fonds de financement de la transition énergétique uniquement dans les Hauts-de-France. C'est une filiale de la région Hauts-de-France qui va travailler avec les collectivités et avec certaines entreprises pour pouvoir financer la transition écologique et notamment le photovoltaïque et puis après d'autres types d'ENR. Sonelis donc est un développeur et un installateur photovoltaïque et en fait ensemble avec la ville de Los Angeles qui est une commune, on a créé la société de projet Mille Soleils.
Est-ce que vous avez contribué à la planification ou du moins à la mise en plan des ressources, des toitures de l'agglomération ?
Alors justement, c'est en cours. Donc Mine de Soleil, comme je vous l'ai dit, est née en 2018. On a commencé par Los Angeles. Là, cette année, on va inaugurer un toit sur la commune de Lens. La Altetlin, c'est une salle de sport. On travaille également en ce moment avec la ville de Liévin. On a aussi des contacts avec la ville de Givenchy-en-Goële. En fait, tout ce qui était anciennement donc, le PMA de l'Artois. Et donc oui, en fait, avec notamment grâce à la ville de Los Angeles, qui fait partie de la CAL, la communauté d'agglomération Lens-Liévin, qui peut parler avec les autres communes et puis leur proposer en fait, le système de mine de soleil pour pouvoir effectivement proposer la transition énergétique et notamment l'installation de panneaux photovoltaïques sur l'entièreté du territoire.
Alors, il y a des initiatives intéressantes. Je pense par exemple à Vimy où on réutilise des anciennes friches pour en faire des lieux adaptés pour faire des panneaux solaires et les mettre en circuit dans la ville.
Alors oui, on connaît le projet de Vimy. Mine de Soleil avait postulé pour travailler avec Vimy, mais ça a été un autre partenaire qui a été retenu.
Donc pour l'instant, vous avez combien de grands projets dans l'Artois ?
Alors on a le projet de Los Angeles qui fonctionne, qui est mis en service en 2020, parce qu'il faut savoir que on parle 2018 pour l'avis de concession, mais à partir de là, il y a pas mal de choses administratives forcément qui doivent être mises en place. Et nous, on a commencé l'installation des panneaux photovoltaïques courant 2019. Ensuite, en 2020, il y a eu l'activation du coup des panneaux photovoltaïques, parce qu'entre le moment où on installe les panneaux, il y a aussi le raccordement chez Enedis, donc qui est assez long. Et ensuite, là, à partir de là, après Los Angeles, on a travaillé du coup avec la ville de Lens, où effectivement, on va inaugurer la toiture courant juin. Lens va d'ailleurs aussi rentrer à l'actionnariat de Mine de Soleil, et on va aussi accompagner les citoyens de Lens dans cette aventure. On travaille aussi avec la ville de Liévin. Mais aujourd'hui, il n'y a que effectivement la ville de Los Angeles et Lens qui vont produire de l'électricité au nom de Mine de Soleil.
Nous sommes toujours avec Marie Piotrowski qui nous définit maintenant les contours géographiques des actions de Mine de Soleil.
Alors, Mine de Soleil, je pense, ne se rêve pas à travailler à l'européenne ni même à la française. Je pense que déjà la région Hauts-de-France a vraiment besoin de travailler sur la transition énergétique parce qu'on sait que c'est une ancienne région, là, dans le bassin minier, mais aussi industriel, et qu'il faut très décarboné, et je pense que Mine de Soleil se concentre déjà sur le bassin minier, et je trouve ça très très intéressant de pouvoir déjà emmener les citoyens à une échelle locale, parce que c'est vrai que plus on va s'employer à être très grand, moins on aura cette interaction et proximité avec les citoyens et avec les gens avec qui on rencontre. Et je pense que typiquement à Beauvais, vous avez aussi un projet citoyen similaire. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs choses dans différents départements, rien que dans la région, qui travaillent plus ou moins comme Mine de Soleil et qui, à leur échelle, vont pouvoir proposer des alternatives comme ça dans les énergies renouvelables.
Vous pouvez informer les citoyens, je pense, le toit commun, par exemple, à Lens ou d'autres espaces, les centres sociaux
C'est vrai. Alors, on n'a pas spécifié là actuellement, mais Mine de Soleil n'a pas d'employés fixes. Donc c'est les trois actionnaires, donc la ville de Los Angeles, la société Sonelis Services et SEM Énergie de France qui travaillent à faire de la communication autour du projet. On a effectivement chacun notre entreprise et chacun nos, je vais pas dire priorités, mais on a des choses aussi à faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de communication, on a un site internet, on a une page Facebook, on a un LinkedIn, mais on n'a pas encore de communication dans des endroits fixes où les gens peuvent s'en référer. On travaille aussi avec la société énergétique qui est là pour proposer aux citoyens d'entrer dans des projets d'énergie renouvelable. Donc je sais qu'ils travaillent avec nous pour Los Angeles, qui travaillent avec nous aussi pour Lens, et qui dans ce cas-là en fait vont pas mal communiquer autour de ce projet, mais ça reste à des petites échelles.
Voilà, donc Mine de Soleil, voilà, autrefois il y avait des mines qui apportaient économiquement leur contribution au développement économique de notre région. Bon, là c'est clair que maintenant c'est plus du tout les mines de charbon. Le soleil, c'est l'énergie qu'il faut développer, c'est un peu ça le projet de Mine de Soleil.
C'est exactement ça, oui, tout à fait.
Avec donc 128 citoyens qui en sont membres, on va dire actionnaires à 36%,
c'est ça.
Et leur poids continue d'augmenter avec une initiative de la ville de Los Angeles de permettre à chacun de ces nouveau-nés d'intégrer l'équipe.
Tout à fait. En fait, aujourd'hui, effectivement, les citoyens de Los Angeles sont majoritaires dans l'entreprise. Donc, on parle vraiment d'une société citoyenne. Et comme vous l'avez relevé, la ville de Los Angeles offre à chaque nouvelle naissance une part de la société Mine de Soleil à un nouveau citoyen qui intègre la ville. Et ce sont aussi donc les citoyens fondateurs.
Est-ce que vous avez des besoins, des demandes? Est-ce que le public peut vous rejoindre pour faire quoi?
Alors oui, c'est toujours un plaisir de renseigner sur la transition écologique qui est, je pense, aujourd'hui au cœur des préoccupations des Français pour le lendemain. Ça serait très intéressant de travailler avec d'autres citoyens ou même d'autres entreprises. Pour pouvoir entrer dans l'actionnariat de Mine de Soleil, il faut être donc adhérent. En général, il faut faire partie de la ville dans laquelle un projet naît, mais après, effectivement, on peut penser à différents types d'ouvertures. Les comités citoyens sont les bienvenus. Il y a peut-être un comité citoyen qui peut naître dans une ville autour de la comité d'agglomération Lens-Liévin, qui peut se former et ensuite rejoindre Mine de Soleil en disant « Bah écoutez, nous, on a pensé à ça, on aimerait ça, on a travaillé avec la mairie sur tel sujet, on aimerait rejoindre Mine de Soleil parce que c'est un projet qui nous intéresse. » Et dans ce cas-là, effectivement, ça serait génial. On pourrait faire grandir Mine de Soleil, toujours à l'échelle locale, mais pouvoir montrer en fait aux citoyens qu'on peut, en tant que personne individuelle, travailler autour de la transition énergétique et pouvoir rejoindre le mouvement.
Votre site?
Alors, c'est www.minedesoleil.fr.
Voilà, donc avis au public.
C'est ça, exactement. Et puis retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, pareillement, Facebook et LinkedIn.
C'était Marie Piotrowski pour la présentation de Mine de Soleil. Plus d'informations sur le site minedesoleil.fr. C'était un sujet de René Lavergne de Radio Campus Lille.
Voilà, eh bien, nous allons rester dans le Pas-de-Calais. Eh oui, avec mon ami Marc Maille. Un grand bonjour, Marc.
Salut, René.
Alors, nous sommes du Pas-de-Calais, eh quand oui, même dire les choses.
Dans le grand Pas-de-Calais.
Avec des études que nous avons faites plus ou moins brillamment à Lille.
C'est vrai.
Et dont nous sommes très fiers. Et donc, aujourd'hui, dans cette émission, nous allons parler de deux musées de la même ville. Quand même deux en un, hein. C'est quand même prodigieux. Deux musées que nous avons visités il y a, on va dire, un bon mois. Hein. Voilà. Et
passe.
Donc le temps passe vite, mais les souvenirs demeurent. Alors, deux de ces musées sont des musées municipaux. Donc on va écouter, on va dire, la responsable de ces musées. Hein. Et puis après, on ira du côté du musée des Beaux-Arts qui présente une nouvelle galerie. Qui s'appelle, c'est la galerie consacrée à Rodin, hein, puisqu'ils ont récupéré des œuvres de Rodin qu'ils présentent. Donc on verra avec Sophie Henwood. Et puis on ira à la cité de la mode et de la dentelle de Calais avec Shazia Boucher, qui était assez remarquable pour présenter ce magnifique musée dont on va parler aussi durant cette, on va dire, demi-heure. Alors, sans transition, on écoute la directrice, hein, conservatrice, etc., Anne-Claire Laronde, sur Radio Campus Lille 106.6 FM.
Oui, donc Anne-Claire Laronde, je suis la directrice des musées de la ville de Calais.
Donc deux musées à Calais.
La Cité de la Dentelle et de la Mode, qui est un grand musée dédié à cette industrie locale et qui nous permet aussi de présenter des grandes expositions de mode. Et le second dans lequel nous nous trouvons, c'est le Musée des Beaux-Arts. C'est un musée municipal, donc un musée qui dépend de la commune de Calais, qui est finalement le plus ancien, qui se retrouve dans la partie historique de Calais et qui présente aujourd'hui sa nouvelle galerie dédiée à l'artiste qui est central pour la ville, Auguste Rodin.
Voilà, donc on peut donner les différentes sections de ce musée des Beaux-Arts de Calais.
Alors, il y a deux grandes sections, l'une qui est destinée à la découverte des collections Beaux-Arts dans leur ensemble, avec une forte présence de l'art moderne et de l'art contemporain. Et la seconde section est dédiée à Rodin, c'est celle-ci que nous inaugurons ces jours-ci. Et elle est destinée à rester pérenne et à présenter le grand artiste qui a tant œuvré pour la renommée de la ville grâce à son groupe statuaire Les Bourgeois de Calais, qui sont visibles devant l'hôtel de ville aujourd'hui à Calais et qui sont visibles aussi au musée dans différentes versions, en plâtre, en bronze, sous différentes tailles aussi, hein, plus ou moins petites ou au contraire relativement plus grandes que la taille réelle. La taille naturelle en tout cas. Et c'est dans cette salle que nous invitons les visiteurs à débuter la découverte de la ville. Hein, c'est une salle qui peut être aussi pensée complètement séparée du restant du musée. On n'est pas obligé de visiter l'ensemble du musée. Si on souhaite découvrir Rodin, on peut tout à fait choisir de passer du temps à sa découverte, comprendre sa vie, comprendre son apport dans l'histoire de l'art et partir ensuite à quelques centaines de mètres à pied voir le monument dans son espace naturel au grand air.
Donc quand on entre dans ce musée, il y a un espace d'accueil qui est très agréable et on sent une véritable ruche qui bourdonne avec de multiples activités.
Ah oui, c'est vraiment un musée qui a été reconstruit après la guerre, donc c'est un musée des années 60 et qui a d'emblée été voulu comme étant un lieu de vie dans cette ville qui avait besoin de se repenser, de se réinventer. Donc c'est à la fois un grand auditorium, c'est beaucoup de groupes, que ce soit des touristes ou des scolaires qui passent, et c'est des associations aussi qui fréquentent énormément notre lieu, qui viennent pour des conférences, on les a croisés tout à l'heure, et nous continuons sur cette lancée d'en faire un lieu de vie en renouvelant nos espaces et en permettant aussi que s'y déroulent des activités artistiques, par exemple. On a pensé la salle Rodin pour laisser à certains endroits des grands espaces libres pour permettre à des musiciens de s'installer. On y donne aussi les cours de yoga. Certaines pratiques d'initiation au Tai Chi Chuan aussi ont lieu dans nos salles. Enfin voilà, on espère que pour l'utilisation de cette salle et des autres espaces tels qu'on va les continuer à les développer, puisqu'il nous reste encore toute une partie du musée à rénover, nous permettrons toujours à nos visiteurs de venir contempler des œuvres, mais aussi vivre le lieu comme un lieu de vie, comme vous le disiez, dans ces espaces qui ont été pensés pour ça. Un bâtiment des années 60, c'est aussi les grandes halles culturelles, c'est aussi des grands espaces où la lumière passe à travers. On est ici dans un cube de verre, c'est un bâtiment en poteau-poutre, donc il y a très peu de cloisons. Les espaces sont traversants, donc c'est très agréable à vivre.
Donc il n'y a pas que des bourgeois à Calais, vous avez pensé aux autres en rendant l'accès gratuit.
Exactement, et même, on va dire, ceux qu'on appellerait bourgeois apprécient la visite gratuite. En fait, la gratuité, au-delà d'une aide financière évidente, c'est surtout une nouvelle façon de rentrer et sortir des musées. En fait, c'est une pratique complètement différente. Comme on va dans une médiathèque, on peut y passer... 5 minutes, un quart d'heure, une heure pour le plaisir, se laisser tenter. La pratique est la même au musée. On peut venir vraiment en promenade. Nous sommes à côté d'un magnifique parc, le parc Richelieu. Les gens s'y promènent, passent. Eh bien, on peut tout à fait se promener aussi au musée. C'est vraiment une pratique nouvelle.
Et donc avec des animations, des collections éphémères pour redonner du peps parfois.
Oui, tout au long de l'année, c'est plusieurs dizaines de dates. Nous faisons des après-midi festifs, parfois la rue même est piétonnisée. Donc on est dans du dedans, dehors, on s'installe dans le parc également. L'idée, c'est vraiment qu'il y en ait pour tous les âges et toutes les formes d'art aussi. Le street art est très présent. Nous sommes vraiment ouverts aux pratiques culturelles les plus variées. On sait très bien qu'aujourd'hui, lorsqu'on est un visiteur, on aime le sport, on aime la culture, on aime la gastronomie, on aime ne rien faire, on aime contempler les yeux en l'air, voilà, des belles choses. Donc on sait que l'offre culturelle, elle doit être multiple et surtout, finalement renouer avec ce qu'était le projet initial, il y a 200 ans, des tout premiers créateurs de musées, c'est-à-dire en faire des endroits où... un lieu public, tout simplement, où on se retrouve, où on voit de belles choses, où on peut apprendre des choses aussi, mais tout simplement un lieu de vie comme une halle, une place de marché.
Est-ce qu'il y a eu des écoles d'art célèbres à Calais ?
Alors, il y a l'école historique d'art qui est toujours en place aujourd'hui, qui a d'ailleurs une classe préparatoire qui prépare aux écoles diplômantes. Et en sont sortis certains artistes importants que nous redécouvrons pour certains aujourd'hui, comme Henri Delcambre, le sculpteur qui a grandi à Calais et qui s'y est formé, qui est l'une de nos grandes donations des deux dernières années.
Voilà, c'était donc Anne-Claire Laron, donc la responsable des musées de la ville de Calais. Marc, peut-être on pourrait revenir un petit peu sur la manière dont tu as perçu ce musée municipal, musée des Beaux-Arts de Calais, parce que moi j'ai vu plutôt la partie Rodin, vu que j'ai interviewé, on l'écoutera après, Sofiane Wood pour nous parler de cette nouveauté du musée, mais toi tu as pu le visiter un peu plus largement.
Oui, c'est exact. Elle a bien raison de dire qu'il y a bien deux musées distincts. La galerie Rodin est complètement séparée du musée des Beaux-Arts. Et tu me demandes de parler plus du musée des Beaux-Arts. Comment j'ai réagi? Alors, j'étais effectivement assez impressionné par le fait que j'ai pu retrouver grand nombre d'artistes, grand nombre d'œuvres, que je peux voir ou que j'ai pu voir dans les Hauts-de-France à travers les nombreux musées qu'on a la chance d'avoir.
Oui.
Si on les cite...
Les Hauts-de-France, c'est un des endroits en France...
où il y a le plus grand nombre de musées. C'est très clair. Et là, alors il y avait donc effectivement... Bon, premièrement, c'est vrai qu'il a été rénové. Alors, ils se sont inspirés de peut-être aussi, au niveau scénographique, de musées déjà existants. Quand elle a parlé, là, juste à l'instant, de Henri Delcambre, bon, c'est vrai qu'il est mis à l'honneur, c'est vrai qu'on lui a consacré un atelier pas reconstitué à l'équivalent de celui d'Henri Bouchard qu'on peut trouver à la piscine de Roubaix, où là, vraiment, tout est respecté. L'orientation enfin, des murs, l'architecture, la superficie de l'atelier, la hauteur de l'atelier. Non, mais c'est remarquable. Donc là, vraiment, c'est l'atelier. Mais bon, ils ont quand même là vraiment favorisé la redécouverte d'Henri Delcombe et la mise à l'honneur de ce sculpteur. J'ai beaucoup apprécié. Voilà, parce que ça change un peu quand on a des ateliers comme ça à l'intérieur des musées, des galeries, donc qui vont se succéder. Je trouve que ça, c'est une bonne idée. Ça a été repris, c'est remarquable. Et là, je disais que oui, on a pu avoir un grand nombre d'auteurs avec pas obligatoirement beaucoup d'œuvres, mais c'était pour moi une bonne synthèse. Et puis alors j'ai beaucoup apprécié de voir même Félix Delmarle, quoi, qui donc est originaire plutôt de Pont-sur-Sambre. Et là, j'ai même vu des œuvres de Félix Delmarle. Moi, j'encourage vivement nos auditeurs, auditrices de Campus à aller voir ce magnifique musée pour, en fin de compte... alors là, je reviens peut-être sur la Galerie Rodin où là, vraiment, la scénographie est intéressante, où là, vraiment, on a quelque chose de très bien marqué dans le temps, toute l'œuvre de Rodin et à la fois l'évolution du personnage. Donc là, c'est vraiment très scolastique, je dirais, très biographique. Mais dans le musée des Beaux-Arts, j'étais particulièrement, moi, impressionné par la richesse sélectionnée d'un grand nombre d'artistes très abordables, à la fois en peinture et sculpture.
Est-ce que tu dirais que c'est un bon raccourci, donc une première étape vers une compréhension large de l'art, l'art moderne et contemporain ?
Oui. Oui, c'est vrai que chacun peut y retrouver, parce que je ne sais plus à la fin d'une salle là, il y a vraiment de l'art très contemporain, très contemporain. Et effectivement, il y a trois œuvres. Malheureusement, je les ai plus là en tête, elles me reviennent pas. Mais ça, c'est des choses qu'on va retrouver éventuellement 10, 15 fois, 20 fois dans d'autres musées.
Voilà.
Et donc, je ne veux pas faire donc de mauvaises informations. Parce que là, ça serait quand même un peu gênant. Je mets le musée de Calais, le musée des Beaux-Arts de Calais à l'honneur. Bon, mais il ne faut pas non plus négliger tout le travail des autres.
Évidemment. Donc, ce que je propose maintenant, c'est qu'on entre un petit peu dans ce qui a fait l'événement, on va dire, au musée des Beaux-Arts de Calais, qui est l'ouverture d'une galerie spécifique consacrée à Rodin. Rodin étant évidemment, on va l'entendre, lié à la ville, j'allais dire pieds et poings liés, c'est pas le mot, mais enfin il y a quand même des bourgeois qui sont mis en situation difficile et dont Rodin témoigne de l'abnégation d'une certaine manière.
Je m'appelle Sophie Anou, je suis responsable du service des collections pour les musées de la ville de Calais et commissaire de la galerie Rodin réouverte.
Donc Rodin, évidemment, à Calais, c'est un personnage emblématique. Il fait partie, on va dire, de l'histoire de la ville.
Oui, tout à fait, puisque en 1884, la municipalité de Calais commande à Rodin un monument pour commémorer le sacrifice d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons à l'occasion de la reddition de la ville lors du siège de Calais.
Donc sa restitution sous forme d'œuvre, elle se fait comment et qui sont les bourgeois qui seraient identifiés ?
Alors nous avons donc un monument que Rodin propose, un monument avec six personnages et non pas le monument à Eustache de Saint-Pierre qui serait celui qui a mené le groupe et qui est le plus identifié. Il propose un groupe de six. Parmi ceux-ci, il identifie bien sûr Eustache, mais par la suite, il donne plutôt des indications en termes de posture ou d'accessoires, puisqu'il va parler par exemple du bourgeois à la clé pour parler de gendarme, etc. Mais Rodin lui-même n'a pas nommé l'intégralité des bourgeois.
Comment cette œuvre a-t-elle été accueillie à Calais ?
Alors cette œuvre a été bien accueillie pour la première maquette que Rodin propose au comité chargé de la réalisation. Par contre, quand il obtient la commande, il va pousser plus loin ses recherches. Il va proposer quelque chose de beaucoup plus personnel et notamment accentuer l'aspect tourmenté de ces personnages. Et finalement, on arrive sur un monument qui n'est plus un monument héroïque, mais plutôt un monument qui représenterait le sacrifice humain. Et cela plaît un peu moins aux commanditaires, mais Rodin poursuivra dans son idée et finalement, ce sera quand même le monument tel qu'on le connaît, avec des personnages, des individus, avec des émotions humaines qui sera présenté et qui est aujourd'hui sur la place de l'Hôtel de Ville de Calais.
Il lui est arrivé aussi d'avoir un refus d'une commande?
Alors ça arrive effectivement que Rodin, comme tout artiste du 19e siècle, donc il répondait énormément à des commandes, puisque de toute façon le sculpteur était obligé pour vivre d'obtenir des commandes publiques, et pour faire des pièces de grande dimension, il fallait un certain nombre de facteurs, et notamment un budget conséquent pour acheter les matériaux, du temps, etc. Donc Rodin va répondre très fréquemment à des commandes publiques, et notamment pour... Alors, par exemple, ce que l'on présente dans nos salles, c'est la sculpture de Lazare Carnot à Nolay. Rodin va concourir pour cette statue et ce ne sera pas lui qui sera retenu, ni un autre d'ailleurs, mais finalement Jules Rouleau. Et donc c'est intéressant de voir qu'il voilà, ne va pas toujours réussir à obtenir les commandes. Et une autre commande qui a fait grand bruit, c'est la commande de la Société des gens de lettres qui commande une statue en hommage à Honoré de Balzac. Et là, Rodin va énormément se documenter sur l'écrivain, mais... faire beaucoup d'esquisses en terre, etc. Mais va finir par livrer une représentation de l'écrivain très symbolique finalement, puisque une statue très monolithique, Honoré de Balzac est enveloppé dans sa robe de chambre avec une tête assez massive, on le reconnaît très peu, et finalement la Société Jean d'Aide va être très déçue par cela, elle ne va pas reconnaître ce qui était attendu à ce moment-là dans les milieux artistiques et ce qui était considéré comme étant classique. Donc elle va refuser la commande de la statue d'Honoré de Balzac et va préférer un autre sculpteur pour réaliser. Donc ce sera Alexandre Falguière.
Il y avait déjà cette notion d'appel d'offres, d'appel à commande?
Alors, il y avait plusieurs façons d'obtenir les commandes. Dans le cas de Calais, Omer de Wavrin demande à un artiste local conseil sur un artiste capable de traduire le dévouement d'Eustache de Saint-Pierre et de ses compagnons, et va du coup contacter par ce biais Auguste Rodin, qui va être emballé par le sujet, et va répondre à la commande.
Est-ce que Rodin, à l'époque, était déjà très célèbre? Est-ce qu'il avait beaucoup de commandes? Est-ce qu'il avait beaucoup à faire? Est-ce qu'il pouvait aussi choisir les commandes auxquelles il voulait répondre?
Alors, son nom commence à circuler dans les milieux artistiques plutôt dans les années 1880, en fait, suite à l'affaire, finalement, de l'âge des reins, où on a mis en question sa capacité à mouler aussi bien, finalement. On a accusé une de ses premières statues d'avoir été moulée sur nature. Donc ça va faire un grand bruit. Et une fois qu'il aura vraiment prouvé que c'est bien lui, on va comprendre qu'on est face à un artiste de très très grand talent. Et il va recevoir très vite la commande de la Porte de l'Enfer, donc une commande de l'État, qui va lui ouvrir un certain nombre de portes ensuite. Donc en 1884, il est déjà un petit peu connu. Mais le monument va quand même être une de ses grandes commandes. Après, il a d'autres commandes en cours en même temps que le monument des bourgeois. C'est aussi pour ça que ça va être aussi long.
Donc pour expliquer cette histoire, cette polémique, hein, c'est que l'œuvre qui était présentée, des reins, enfin autour des reins, c'était une œuvre à dimension humaine, donc on pouvait imaginer être un moulage, c'est ça?
Oui, c'est ça. Rodin va proposer un grand nu à taille humaine et tellement bien réalisé finalement qu'on va imaginer, enfin, un journaliste belge à l'époque va plutôt certainement dans le sens de dire que c'est bien réalisé, mais émettre l'idée que ça pourrait avoir été moulé sur nature. Or le moulage sur nature n'a rien d'artistique, donc n'a pas d'intérêt, en tout cas le sculpteur s'est trouvé particulièrement froissé par cette allégation et va ensuite mettre tout en œuvre pour qu'on ne puisse plus l'accuser de ce genre de choses, et notamment ne moulera plus rien à l'échelle une, en tout cas à l'échelle humaine.
Donc les œuvres qui sont dans ce musée des Beaux-Arts de Calais, comment ont-elles été sélectionnées? Est-ce que ça a été facile pour vous de les obtenir?
Alors celles qui sont dans la galerie Rodin sont des œuvres qui appartiennent soit au musée de Calais, soit qui ont été déposées par des institutions, pour la plupart parisiennes, à l'occasion de dépôts. Donc en fait, ce sont des contrats de prêt, mais plutôt de longue durée, que certaines institutions font à d'autres institutions. Donc ici, dans la galerie Rodin, on a des œuvres qui appartiennent au musée, des œuvres qui ont été déposées par la ville de Paris, et des œuvres qui ont été déposées par le musée Rodin, pour la majeure partie d'entre elles.
Et au niveau du choix des œuvres, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique au musée de Calais ?
Jusqu'à ces dernières années, on présentait surtout des œuvres autour de Rodin, autour du monument bourgeois de Calais. Et en 2019, quand il a fallu renouveler le dépôt, l'idée a été de sélectionner un certain nombre d'œuvres qui ne faisaient pas partie de la série sur les bourgeois de Calais, mais plutôt autour de la Porte de l'Enfer, pour montrer la diversité du travail de Rodin. Rodin n'était pas uniquement l'auteur du monument aux bourgeois de Calais, mais avait aussi une carrière avant et après ce monument.
Est-ce que dans les musées, alors de France, voire de l'étranger, il y a, à part le musée Rodin de Paris, des musées qui ont justement des présentations de cette dimension ?
Alors, je ne saurais pas vous répondre sur le nombre d'œuvres exactes, mais on est effectivement un des plus gros dépôts. Je ne voudrais pas dire le plus grand parce que ça demanderait vérification, mais on est un des plus grands dépôts d'œuvres de Rodin en province.
Est-ce que votre collaboration avec le musée Rodin de Paris vous entraînera peut-être à faire visiter ce musée au public de Calais ?
Forcément, quand on présente ce genre de galerie avec autant de dépôts, je pense qu'on va donner envie à nos visiteurs d'aller en savoir plus, de voir davantage d'œuvres. Et c'est l'idée. Et on fait énormément. Donc le musée Rodin est cité dans tout le parcours. Et on fait des renvois réguliers, notamment, je pense, à la Porte de l'Enfer, avec un QR code qui permet d'accéder directement au site du musée Rodin pour avoir des informations complémentaires. Mais on a vraiment un partenariat privilégié avec ce musée. On reçoit des conseils, du coup, se dépose. La reproduction aussi de beaucoup d'iconographies. Donc effectivement, on espère que ce partenariat se poursuive et que nos visiteurs aient envie d'en savoir plus et voir aller à Paris ou inversement.
Alors le cadre du musée Rodin est un peu comme ici, donne sur un magnifique jardin. Ici, vous avez aussi des espaces.
Oui, tout à fait. On a cette chance d'avoir un musée qui date des années 60, qui est un musée de la reconstruction avec des espaces, des grands volumes, des grandes hauteurs sous plafond, de grandes baies vitrées. Et tout ça, effectivement, la salle Rodin s'ouvre sur le parc Richelieu, où la sculpture des monuments, d'ailleurs, était présentée à l'origine, en 1895. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de passer du temps dans cette salle face à la verdure du parc qui est juste en face.
Voilà, donc c'est pas très loin de la station de train, hein, en fait. Il y a la gare à 500 mètres.
On est à peu près à 10 minutes de la gare de Calaisville, donc à peu près un peu moins de 2 heures de Paris.
Voilà, c'était donc Sophie Henwood donc, qui présentait cette nouvelle galerie Rodin que Marc et moi avons visité, Marc.
Tout à fait. Alors, je reviendrai sur deux choses qui ont été bien déjà abordées. C'est à la fois, bien sûr, les bourgeois de Calais, l'œuvre des bourgeois de Calais. Bon, il faut savoir que donc, cette œuvre, elle est quand même aussi dans d'autres endroits du monde. Et elle se trouve, je ne sais pas s'il n'y en a pas 4 ou 5, ou peut-être voire plus. Je crois que c'est à Sydney, en Asie. Enfin, les lieux exactement, je ne les ai pas, mais un bon moteur de recherche Internet nous les donnerait. Alors, il faut savoir que Rodin n'était pas toujours facile. Quand il s'agit de déposer cette œuvre sur la place de Calais, on était parti sur un socle très haut, un socle, on va dire, traditionnel, où là, voilà, il fallait bien lever les yeux pour voir les statues. Et Rodin, était presque au point, on voit déjà la modernité, hein, parce qu'on a parlé du terme de modernité chez Rodin, je crois que ça c'est évident, il voulait les mettre à même le sol, Alors, il a bien négocié, hein. Il s'est bien battu, parce que je crois qu'effectivement, dans le message que lui-même voulait exprimer, je crois qu'aujourd'hui, je crois qu'on aurait pu les mettre à même le sol.
Alors, on va dire que ce sol dont on parle, c'est celui qui est devant l'hôtel de ville, hein. Donc, il y a un grand parc, là, et donc, on peut apprécier ces bourgeois de Calais. N'hésitez pas à y aller, hein. Donc, j'ai même pris une photo où tu es dessus, hein, mais je ne l'ai pas publié, c'est juste pour toi. Hein. Donc, voilà, on va poursuivre avec la dernière interview.
Alors, si je pouvais aussi dire j'ai envie de la partager avec les auditeurs. C'est quand on parle effectivement de la commande de l'œuvre concernant Honoré de Balzac, hein, on peut dire qu'effectivement, donc elle a été rejetée par toute l'intelligentsia parisienne.
On a vu des photos sur place, hein, pour voir un peu à quoi ça ressemblait.
Et alors, moi, je veux faire partager cette petite anecdote. Il faut savoir donc qu'effectivement, la commande passée pour Honoré de Balzac par Rodin a peut-être été faite, finalement elle a quand même été réalisée, mais pas vraiment Honoré.
Ah ben bah voilà, bah, sacré Honoré qui nous fait des blagues. Alors, on va passer au dernier point qui est plus qu'un point, c'est la dentelle. c'est donc la cité de la mode et de la dentelle, remarquable musée, on en reparlera bien sûr après. Là pour l'instant, bien, c'est Shazia Boucher que j'ai interviewée sur place.
Bonjour, je m'appelle Shazia Boucher et je suis directrice adjointe des musées de Calais.
Donc ici nous sommes, comment on appelle, la cité de la dentelle et de la mode?
Tout à fait, parfait, la cité de la dentelle et la mode.
Donc un musée qui existe depuis longtemps, avec deux sections définies, une nouvelle peut-être?
Alors, la Cité dentelle et la mode s'est ouverte en 2009, hein, dans une ancienne usine de dentelle du fin du 19e siècle, mais avec une construction moderne, contemporaine, tout en verre, et qui accueille l'exposition temporaire et l'auditorium du musée.
Donc, en région de France, il y a deux, on va dire, régions spécifiques pour la dentelle. Il y a Caudry, d'une manière globale, hein, et puis aussi, bien sûr, ici, Calais, avec toute une économie qui était importante à un certain moment.
Tout à fait. En fait, Calais n'était pas une ville de production textile à la base. C'était une ville qui était tournée vers la mer, hein, vers l'export. Mais la proximité avec l'Angleterre a fait en sorte qu'au 19e siècle, des premiers métiers sont arrivés, puisque, bien sûr, l'Angleterre était un peu en avance du continent par rapport à la technologie avec la révolution industrielle. Et donc, on a fait venir les métiers de dentelle. Et puis après, c'est installé au plus près, finalement, des côtes anglaises. Et Calais est devenue une vraie petite Angleterre avec 20 000 personnes qui travaillent la dentelle au début du siècle.
Donc, quand on parle de la dentelière, ça évoque une image. Est-ce que cette image, pour vous, elle se transmet au travers du temps?
Alors, c'est vrai que le dentelier, on a l'impression de quelqu'un qui est en train de travailler avec ses mains le fil, hein, pour réaliser ce textile très, très ajuré. Bien sûr, cette dentelle-là, nous avons en fait dans nos collections, mais ce qu'on présente surtout, c'est les technologies mécaniques de ces métiers qui ont réussi à imiter les mains de la dentelière pour fabriquer ce tissu extrêmement délicat qu'est la dentelle.
Est-ce qu'il y a un rapport, on va dire, avec les métiers à tisser?
Le métier qui fabrique la dentelle dite de Calais-Caudry est bien un métier à tisser, c'est-à-dire il y a un entrecroisement de fils, et donc ce type de métier-là est le plus qualitatif pour fabriquer la dentelle, puisque la dentelle est beaucoup plus solide, ça ne peut pas se défaire comme la dentelle dite tricotée, où il y a un seul fil. Et donc si on tire en fait sur le fil, ben, en fait, la dentelle peut se défaire. Donc c'est effectivement le haut de gamme, hein, de la dentelle.
Et donc les métiers à tisser, il y a des commandes par des cartes perforées?
Ces métiers-là sont effectivement en fait contrôlés par les cartons Jacquard, hein, dont une invention de Jean-Marie Jacquard. Donc c'est un système binaire, zéro, ça ne travaille pas, un, ça travaille. Et donc vous voyez, ça va faire en sorte de bouger certains éléments dans la machine, dans le métier, pour produire le mouvement des fils.
Donc, actuellement, l'économie, l'industrie liée à la dentelle, existe-t-il encore en France ?
Il y a encore de la production de la dentelle haut de gamme à Calais. Il y a 2 entreprises qui fabriquent encore la dentelle. Et à Caudry, il y a plusieurs entreprises dont c'est vraiment une industrie orientée vers le haut de gamme, c'est-à-dire c'est pour la robe, c'est pour la haute couture, le prêt-à-porter de luxe ou bien sûr aussi la lingerie de luxe. Maintenant, c'est vrai que c'est une industrie qui a du mal. La mode est toujours cyclique. Il y a des moments où on porte plus ou moins la dentelle. Et puis, on a eu quand même plusieurs années avec des crises économiques importantes. Et donc, ça a touché tous les secteurs. Et la dentelle n'était pas, en fait, protégée plus que les autres industries.
Quels sont les couturiers qui ont beaucoup utilisé la dentelle ? Peut-être qu'ils l'utilisent moins maintenant. Est-ce qu'il y a eu des gens célèbres qui ont popularisé cet art ?
Alors, plus près de nous, je dirais oui, on peut penser à quelqu'un comme Christian Lacroix, hein, donc qui, effectivement, est vraiment maître dans le mélange, en fait, de textures et de tissus, et quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup apprécié l'utilisation de la dentelle. Sinon, aussi, un styliste, Chantal Thomas, hein, donc qui a commencé dans le prêt-à-porter et qui était le premier à vouloir mettre de la dentelle sur les jambes des femmes, hein, donc, et qui a vraiment la particularité d'avoir travaillé avec les dentelliers pour la création des dentelles spécifiques pour ses propres créations.
Vous avez, à un moment donné, réalisé une exposition destinée à être présentée à Shanghai, à l'Expo Universelle.
Alors, ce n'était pas l'Expo Universelle, c'était dans un musée qui s'appelle MoCA, à Shanghai. C'est une exposition qui voulait mettre en avant les savoir-faire des industriels de la dentelle. Donc c'est une exposition qui était vraiment destinée à voyager pour faire connaître en fait ce savoir-faire en dehors de la France, hein. Et donc le premier passage a eu lieu en Chine et le deuxième à New York.
Et est-ce que ça aboutit à des partenariats, des développements ?
Alors, c'était pas vraiment dans le but pour que le musée, en fait, crée des partenariats. C'était vraiment dans le but de faire connaître le savoir-faire de nos industriels, en fait, de la dentelle. Donc, on espère qu'effectivement, bah, ça leur a peut-être apporté quelques clients.
Voilà. Donc, comme vous le disiez, la mode, c'est cyclique. Vous attendez la vague qui revienne.
Bah, nous espérons toujours, hein. Et puis c'est vrai que quand le public vient, qu'il découvre ce savoir-faire et ce textile extrêmement unique, je pense que tout le monde est conquis. Il faut juste passer la porte et le découvrir.
Voilà, donc votre travail c'est de préserver, de montrer, de donner envie, de l'appétit aussi.
Voilà, et de faire connaître, et puis faire connaître aussi auprès du grand public, mais aussi les jeunes créateurs, les designers de demain, pour donner envie à connaître ce tissu et donc de l'utiliser.
Alors dans la région, il y a aussi Roubaix-Tourcoing, qui est quand même une base au niveau du tissage, etc., qui était importante. Il y a encore peut-être une école ou des musées. Est-ce que vous imaginez des collaborations ?
Nous avons travaillé par le passé, effectivement, avec la piscine de Roubaix, hein, par exemple, sur des projets d'exposition communes. Ça fait plusieurs années. Nous connaissons bien, en fait, hein, bien sûr, hein, ce sont des collègues, en fait, hein, qui travaillent dans ce même domaine. Il y a S-Mode, qui se trouve aussi sur Roubaix, avec qui nous avons travaillé par le passé. Bah, le tout, c'est de se rassembler autour des projets communs et de les porter ensemble. Bien sûr, il y aura des projets, certainement, à l'avenir.
Spot qui avait une école ou qui a peut-être encore une école en Chine d'ailleurs.
Oui, alors ça je ne peux pas vous dire, mais effectivement ils ont plusieurs écoles, hein, dans le monde. Donc, ouais,
c'est donc l'histoire n'est pas terminée.
Non. Restons optimistes.
Alors c'est vrai qu'on est dans une période un peu d'incertitude globale, hein, économique, pour le monde de la culture, pour le monde aussi, j'imagine, de la mode, du luxe, de la couture. Les gens font plus attention qu'avant, hein.
Voilà, en fait, c'est tout ça. Je crois que les chefs d'entreprise, ils ont aussi un petit peu de difficulté à savoir comment se positionner. Donc, c'est vrai que tout le monde est un peu dans une expectative.
Voilà, mais en tout cas, on vous souhaite bonne chance. Puis merci de conserver, de présenter dans un cadre merveilleux cet ensemble qui est unique en France.
Bah, merci à vous, et puis je vous dis à très bientôt.
Voilà, donc c'était Shazia Boucher donc pour la présentation de la Cité de la Mode et de la Dentelle de Calais, un lieu merveilleux, Marc.
Eh oui, quand on voit toutes ces machines, on se dit mais elles tournent plus, ça tourne plus. Hein, on était là au 18e, enfin 19e siècle.
Ouais.
Eh bien non, ça fonctionne, c'est magnifique.
Hein. Donc il suffirait que... On va dire les moyens arrivent pour redévelopper, puis aussi l'intérêt des stylistes et pourquoi pas des jeunes créateurs. Demain, tu sais, je vais aller à S-Mode rencontrer les jeunes créateurs donc pour leur concours de fin d'année. Hein. Je leur mettrai bien dans l'oreille que un peu de dentelle de temps en temps, ça pourrait améliorer les choses.
Ah non, mais elle l'exprime bien. Hein. Elle dit que c'est vraiment cyclique et il suffirait de peu de choses pour. Bah, il faut savoir que quand même, ils ont eu des commandes à l'étranger pour évidemment une certaine aristocratie, clientèle, ouais. Et c'était très, très, très renommé. C'était même la dentelle de Calais. C'est exceptionnel. Hein. Mmh. Donc là-dessus, ils ont quand même. Il se distingue des deux autres, hein. Ça c'est évident, c'est bien dit. Et je trouve que oui, dans le musée, il y a des remarquables, disons.
Des vêtements fabuleux.
C'est fabuleux, hein, c'est beau. Et donc, souviens-toi, on se posait la question tous les deux, on se disait, mais alors, et pourquoi il n'y a pas d'école ?
Alors justement, moi j'ai eu la réponse. Hein. Il y avait un lycée professionnel avec une section qui travaillait là-dessus. Ça a été fermé parce qu'il n'y avait pas, suffisamment d'élèves, etc. Et donc ça a été repris par le musée en question. Mais il y a très 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 peu d'apprentis qui sont d'accord. Actuellement en fonction d'apprendre ça. Je crois qu'il n'y en a plus que deux. Hein. Donc, il serait temps de réagir. Hein.
Mais oui, parce que quand tu prends la piscine, parce qu'elle l'a même évoqué elle-même, il est clair qu'à Roubaix, il y a Yann Saï qui est présent. Et là, il y a des étudiants de par le monde.
Bien sûr.
Et Roubaix, c'est vrai que là aussi, c'était un bijou hein, dans sa discipline. Et donc, Calais, on aurait pu imaginer que pour la dentelle, bah, il puisse y avoir aussi des étudiants qui viennent de par le monde.
Bien sûr, alors on parle de Calais, on pourrait parler de Caudry de la même manière.
Caudry, c'est exact. Hein, c'est...
Voilà. Bien, Marc, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on a pu voir à Calais, et je pense que c'était un très très beau moment.
Oui, oui, donc c'est pas une histoire qu'il n'y a pas de Calais dans le Pas-de-Calais, il y a un Calais dans le Pas-de-Calais, d'accord.
Des bourgeois, il y en a peut-être moins maintenant, mais en tout cas, voilà, il y a ces statues, enfin, tous ces monuments qui font penser à une ville qui a une vraie histoire, donc allez à Calais.
Merci pour cette invitation.
Voilà, l'émission Quoi de Neuf est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour d'autres aventures radiophoniques. À 18h30, vous retrouverez l'émission L'heure de le mettre.